40 ans, le bel âge, toujours fringant, le TGV se réinvente pour son anniversaire, nouveau modèle. Maquette inaugurée ce matin en gare de Lyon, nous serons en direct dans ce journal. Douche froide et déménagement en vue à Cherbourg après l'annulation du contrat des sous-marins. Les Australiens qui travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois vont sûrement devoir quitter la région. Et puis c'est l'histoire d'un empereur qui aimait un château. Napoléon était tombé sous le charme de Fontainebleau. Une exposition retrace en ce moment ses séjours. Le journal vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Il sillonne la France à grande vitesse et jamais ne s'essouffle. 40 ans que cela dure.
Hein. Oui, le TGV fête son anniversaire mercredi prochain, mais on le célèbre dès aujourd'hui à la gare de Lyon où vous vous trouvez, Aurélien Fleureau. Bonjour.
Bonjour.
Alors ces derniers temps, il n'a pas eu la vie facile le TGV avec la crise sanitaire, mais on en sort. Alors comment va cette fierté française aujourd'hui ?
Eh bien, disons qu'il est encore convalescent. Hein. Ce n'est pas encore un retour à la normale. Lors du premier semestre 2021, la fréquentation était encore en baisse de 50% par rapport à 2019. Confinement, couvre-feu, télétravail, tout cela a fortement impacté les trajets longue distance. En revanche, l'été a été bon. Le niveau d'avant-crise a même été quasiment retrouvé. Alors ça, c'est vrai pour l'aspect loisir. L'inquiétude est en revanche durable en ce qui concerne les voyages d'affaires, les clients professionnels qui fréquentent la première classe. Clairement, les billets les plus rentables pour la compagnie. Là, l'effet visioconférence, télétravail est net, à tel point que la SNCF n'exclut pas de tout simplement supprimer à terme une voiture de première sur les trois qui existent en général dans un TGV.
Alors ce qui a fait le succès du TGV, c'est qu'il n'a jamais cessé de se renouveler et d'ailleurs le TGV du futur sera dévoilé aujourd'hui pour la première fois.
Exactement, ce sera une maquette grandeur nature, environ 8 mètres pour la nouvelle motrice de ce TGV M qui va arriver sur les rails en 2024. Il sera fabriqué en France par Alstom, une commande de 100 rames pour près de 3 milliards d'euros. Ce train du futur aura un nez plus aérodynamique pour faciliter l'éco-conduite et avec le système de freinage, les économies d'énergie seront de 20% par rapport au TGV actuel. Il sera aussi plus résistant au choc, l'intérieur sera modulable et pourra accueillir près de 200 passagers de plus qu'un TGV duplex. Éclairage, air conditionné, disposition des toilettes 5G à bord. Sur tout cela, la SNCF promet des innovations.
Merci Aurélien Fleureau, spécialiste des transports d'Europe 1 en direct. On l'entend de la gare de Lyon.
Voilà, le TGV, 100 milliards d'euros d'investissement depuis 40 ans. Le drame, c'est qu'on n'est jamais arrivé à l'exporter alors qu'aujourd'hui, tous les grands pays se mettent au train à grande vitesse. La France avait-elle raison avant tout le monde, semble-t-il ? Oui, succès industriel tout de même le TGV. Rien à voir avec la déception hein, concernant les sous-marins. L'annulation du contrat par les Australiens hier a fait l'effet d'une bombe sur la scène internationale. Mais il a aussi des conséquences sur de nombreuses familles.
Ces Australiens qui s'étaient installés à Cherbourg pour travailler sur ce projet et qui aujourd'hui vont devoir déménager au grand dam de ceux qui s'étaient habitués à leur présence, comme dans cette école où 25% des élèves vont sans doute partir à Cherbourg. Le reportage européen de Sandrine Prioul et Thibaut Hu.
C'est un vrai coup d'arrêt pour tout le monde.
Un coup d'arrêt hier matin dans cette petite école privée et bilingue de Cherbourg. Il y a les mamans qui tombent des nues, un quart sont australiennes, sans compter ces femmes d'eux, celles qui ont posé leurs valises au bout du Cotentin, à l'opposé de leur lieu de vie, Adélaïde, 20 000 km. Celles qui ont trouvé à l'école un job de prof d'anglais, organisé la fête nationale australienne. Ces femmes-là, leurs maris aussi, hier matin, voulaient raconter leur incompréhension, crier leur colère. Et puis, Naval Group les en a dissuadés. Trop d'enjeux, diplomatique et surtout financier. Alors hier soir, il ne restait que la directrice d'une de leurs écoles, Séverine Chenet-Baudry, pour raconter le vide que fera le départ des Australiens.
On est vraiment des victimes collatérales. Déjà, la moitié de nos salariés sont des Australiens. Et puis, on a pas mal de familles. On n'a pas créé spécifiquement cette école pour les Australiens, mais clairement, c'est une école bilingue, c'est une ouverture, une volonté justement de désenclaver un peu Cherbourg. Puis c'est très violent. Ils prennent des cours, ils progressent en français, et puis il y a certains enfants qui ont un petit peu de mal à s'intégrer. Enfin, on a fait ce travail et puis il faut tout recommencer ailleurs, c'est très dur.
Hier, celle dont l'école cohabitait désormais avec une antenne spécifique de l'Alliance française n'espérait qu'une chose, revoir bientôt ses parents d'élèves, lui annoncer qu'ils ont choisi de prolonger leur séjour en France. Cherbourg, Sandrine Prioul, Europe.
Déception donc à Cherbourg, colère en Chine. Cet accord entre les États-Unis et l'Australie met en danger la paix régionale pour Pékin qui dénonce une clique irresponsable en passe de relancer la course à l'armement. Sébastien Lebelzik.
La Chine possède déjà un arsenal impressionnant. 360 navires de combat, c'est plus que la flotte américaine. Pékin dispose notamment de 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et d'une quarantaine de sous-marins d'attaque, dont un prototype furtif ultra secret capable de plonger à 500 mètres de profondeur. Le budget militaire chinois est en constante augmentation et la marine en est une composante stratégique. Dans cette guerre froide des sous-marins nucléaires, la mer de Chine est une zone à haut risque. Alors la perspective de voir des sous-marins australiens épauler la marine américaine fait bondir la Chine. Dans une conférence de presse organisée hier à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a accusé ces pays de provoquer une nouvelle guerre froide.
La coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie en matière de sous-marins nucléaires dégrade gravement la paix et la stabilité régionale, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire.
Et c'est l'Australie qui devrait en payer le prix. L'Australie et la Chine sont à couteau tiré depuis 18 mois. La plupart de ses correspondants de presse ont été expulsés ou ont fui la Chine. Une journaliste et un écrivain australien y sont emprisonnés et accusés d'espionnage. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
La situation sanitaire s'améliore dans les Outre-mer. La Polynésie et la Martinique ont allégé leur confinement hier. Reste toujours néanmoins la question de la vaccination. En Guadeloupe, plus de 70% des agents hospitaliers ne sont pas vaccinés. Mais pour le CHU, impossible de les suspendre compte tenu du nombre de malades toujours très important et du besoin permanent de soignants.
Europe 1, il est 8h06. Un nouveau plan pour les chômeurs d'ici la fin du mois. Le gouvernement va financer les entreprises pour qu'elles forment elles-mêmes leurs futurs salariés.
C'est la ministre du Travail qu'il annonce ce matin. La mesure s'adresse à ceux qui cherchent un emploi depuis plus d'un an et elle répondra dans le même temps aux besoins de main-d'œuvre. Emmanuel Duteil.
Oui, on est face en France à un paradoxe qui s'aggrave. Un fort taux de chômage, plus de 8%, et des offres d'emploi historiquement élevées. Un des problèmes souvent mis en avant, c'est le manque de formation des demandeurs d'emploi. L'État investit beaucoup avec peu de résultats. Il faut donc changer de méthode, plaide la CPME, qui a poussé une idée toute simple, former réellement en fonction des besoins. On sait qu'il manque environ 100 000 salariés dans la restauration, 70 000 dans le bâtiment. Le gouvernement va donc amplifier un dispositif qui existe mais qui est peu utilisé. C'est ce que l'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Les demandeurs d'emploi sont directement formés à un métier dans l'entreprise. L'État paie la formation et ce dispositif fonctionne. Dans 8 cas sur 10, le chômeur se voit proposer après sa formation un poste en CDI. Dans le même sens, le gouvernement demande à Pôle emploi de lister d'ici à la fin octobre toutes les bonnes pratiques locales qui pourraient être dupliquées, enfin pourrait-on dire, et pour y arriver, les moyens mis en place pendant la crise à Pôle emploi sont maintenus.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Éric Zemmour n'est pas officiellement candidat, pourtant beaucoup de monde veut voir dans sa première séance de dédicace aujourd'hui des airs de meeting politique.
800 personnes, 70 journalistes dans l'enceinte du Palais des Congrès de Toulon. Il y aura du monde. C'est une vraie rockstar qu'accueille le festival des entretiens d'été. Le livre d'Éric Zemmour, La France n'a pas dit son dernier mot, sorti hier, est déjà en tête des ventes.
Enfin, les journées du patrimoine ont lieu ce week-end. C'est l'occasion peut-être pour vous, si vous habitez en Ile-de-France ou pas trop loin, l'occasion d'aller découvrir le château de Fontainebleau.
Il accueille l'exposition Un palais pour l'empereur Napoléon à Fontainebleau, en partenariat avec Europe 1. On peut y voir 200 œuvres qui ont entouré le monarque, des meubles, des livres, des tableaux, et ressentir lors d'Autriche toute l'affection qu'il avait pour cet endroit.
Le parquet craque sous les pas. Tous ces couloirs, Napoléon les a empruntés. À Fontainebleau, l'empereur était presque un simple châtelain. Il y a fait 3 séjours d'un mois, explique Jean Vitet, le conservateur en chef au château.
Le château n'avait pas les rigidités des bâtiments parisiens et la solennité des bâtiments parisiens. Il avait l'impression ici, tout en étant au milieu des autres, d'être tranquille chez lui et que tout le monde ne le surveillait pas à chaque instant.
Napoléon n'aime pas les lit solennel. Il fait installer un lit pliant en acier, comme sur le champ de bataille. Et contre l'avis de ses architectes, Percier et Fontaine, l'empereur tient à ce que certains objets dans sa propre chambre restent modestes, ajoute Marie-Christine Labourdette, la présidente du château.
Vous verrez à côté un guéridon extrêmement simple en acajou, sur lequel l'empereur déjeunait et travaillait une partie de la journée. Et quand Fontaine et Percier lui disent « on pourrait peut-être le décorer un tout petit peu », etc., l'empereur lui dit « mais pourquoi faire ? Il est parfaitement bien comme ça ». Et donc cette espèce à la fois de volonté de faste et de simplicité de l'homme est quelque chose que je trouve très touchant.
Le château de Fontainebleau est aussi le lieu où Napoléon abdique en 1814 et où il fait solennellement ses adieux à ses soldats dans la cour du Cheval Blanc.
L'or d'Autriche.
Le football pour terminer, sixième journée de Ligue 1 ce soir avec le match Strasbourg-Metz en ouverture.
Et en direct sur Europe 1, le service des sports sera autour de Lionel Rousseau dès 20h. Et puis les éliminatoires pour la Coupe du Monde de foot féminin 2023 ont démarré cet après-midi pour leur premier match. Les Bleus rencontrent la Grèce.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.